Cœur de l'info. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 17 avril 2015, en direct de Washington, Idrissa Sidoulia et Anne Albertson. Les titres?
Les États-Unis inquiets de la détention prolongée de jeunes activistes en République démocratique du Congo.
Le président Condé dément dans une interview à VOA Afrique tout tir à balles réelles par les forces de l'ordre lors des récentes manifestations à Conakry.
Le nouveau code électoral burkinabé respecte la volonté populaire, rétorque le ministre de la Sécurité face aux critiques extérieures.
L'épidémie de méningite qui sévit depuis janvier au Niger a fait 75 morts, dont plus de la moitié dans la capitale Niamey.
Le drame des naufrages de migrants en Méditerranée a fait jeudi de nouvelles victimes, 41 disparus selon des survivants et 12 chrétiens jetés à la mer après une rixe avec des musulmans. Les tueurs présumés ont été arrêtés en Italie.
Le secrétaire général de l'ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat au Yémen. Et ne manquez pas notre rubrique, la Minute Éco, ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. République démocratique du Congo, le département d'État américain exprime son inquiétude au sujet de la détention prolongée de jeunes activistes par les autorités congolaises. Les précisions de Chérubin Dorsil.
Le département d'État se dit particulièrement préoccupé que ces jeunes gens soient détenus sans inculpation et sans accès à des avocats. Dans un communiqué publié hier, la porte-parole intérimaire du département d'État, Marie Harf, a évoqué les cas d'au moins 3 membres du mouvement Filimbi, interpellés le 15 mars lors d'une manifestation pacifique de la société civile à Kinshasa et détenus depuis lors. Madame Harf a aussi relevé les cas d'au moins 4 membres de l'organisation Lucha, arrêtés dans des circonstances similaires à Goma, dans la province du Nord Kivu, et qui sont eux aussi en prison. Washington appelle le gouvernement de la République démocratique du Congo à veiller à ce que ces activistes et tous les détenus fassent l'objet d'une procédure judiciaire en bonne et due forme et qu'ils soient immédiatement remis en liberté si aucun chef d'accusation n'est retenu contre eux. Alors que la République démocratique du Congo entre dans son cycle électoral, il est particulièrement important que le gouvernement respecte les droits constitutionnels de tous les citoyens aux libertés de réunion et d'expression, souligne le département d'État.
Toujours en RDC, et selon un nouveau bilan officiel obtenu jeudi, 19 personnes ont été tuées à la machette mercredi en territoire de Beni, région de l'est du pays, théâtre de massacres attribués à des rebelles ougandais. Nous déplorons la mort de 18 personnes, plus une femme enceinte qui a été décapitée, a déclaré à l'AFP Amissi Kalonda, l'administrateur du territoire.
Monsieur Kalonda avait donné mercredi un bilan de 5 morts alors qu'une ONG locale avait parlé de 10 personnes tuées. Au total, a-t-il précisé, 13 hommes et 6 femmes ont péri dans le massacre et 9 des victimes ont été décapitées.
Le nouveau code électoral du Burkina Faso, critiqué par la communauté internationale parce qu'il interdit aux partisans du président déchu Blaise Compaoré de concourir aux élections d'octobre, respecte la volonté populaire, a justifié jeudi le ministre de la Sécurité burkinabé. Cette loi a été votée et l'appréciation de nos amis et partenaires étrangers est certes à prendre en compte, mais ce qui importe, c'est la volonté populaire exprimée à travers ce vote, a souligné le ministre Auguste Denis Barry lors d'une conférence de presse. Les partis pro-Compaoré ont annoncé mercredi avoir saisi le Conseil constitutionnel pour tenter d'invalider ce nouveau code électoral.
Une épidémie de méningite qui sévit depuis janvier au Niger a fait 75 morts, dont plus de la moitié dans la capitale Niamey, selon un nouveau bilan officiel annoncé jeudi. Un précédent bilan faisait état de 45 décès sur 345 cas de méningite entre le 1er janvier et le 29 mars, rapporte l'AFP. Toutes les régions du pays sont touchées, à l'exception de Diffa, dans le sud-est, proche du Nigeria, a indiqué le ministre. Des campagnes générales de vaccination seront entreprises dès la semaine prochaine dans les zones très touchées, a assuré M. Agali.
Au Soudan, les bureaux de vote ont fermé après 4 jours d'élection que le président Omar El-Béchir et son parti sont largement assurés de remporter. Morgane Guiriec.
Les élections ont commencé lundi et devaient se terminer mercredi, mais ont été prolongées d'une journée. Cependant, le vote se poursuivra ce vendredi dans l'état de Jazira, dans le centre du pays, en raison de problèmes dans le transfert de bulletins dans 152 bureaux de vote. Certains bureaux resteront ouverts jusqu'à samedi dans une région du Darfour Nord. Des violences dans les états du Darfour et du Kordofan Sud, où sévissent des rébellions, ont perturbé ces élections multipartites, les deuxièmes depuis 1989. Les résultats sont attendus à la fin avril. Âgé de 71 ans, le général Omar el-Béchir est presque assuré d'être réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Il avait en face de lui 15 candidats, très peu connus, dont deux se sont retirés en dénonçant des irrégularités. La majorité de l'opposition avait appelé au boycott et apparemment le taux de participation a été faible.
Le drame des naufrages de migrants en Méditerranée a fait jeudi de nouvelles victimes, 41 disparus selon des survivants et 12 hommes jetés à la mer après une risque sur l'embarcation de fortune qui devait les amener en Europe.
Selon l'AFP, ce nouveau naufrage, après celui du week-end qui aurait fait quelques 400 disparus, porte à près de 950 les personnes disparues, si ces faits sont confirmés, le nombre de morts en Méditerranée depuis le début de l'année. Et puis la Commission européenne a indiqué hier qu'elle examinait la compatibilité avec les règles européennes de la nouvelle loi espagnole adoptée le 26 mars sur les refoulements à chaud des immigrants à la frontière des enclaves de Ceuta et Melilla et du Maroc. Claire Morin-Gibourg.
La loi adoptée le 26 mars par le Parlement espagnol autorise les forces de l'ordre dans ces enclaves à repousser les étrangers détectés sur la ligne de démarcation lorsqu'ils tentent de franchir les éléments d'endiguement frontalier pour traverser la frontière de manière irrégulière. Ces refoulements que l'on qualifie de à chaud ont été vivement critiqués par le Conseil de l'Europe et par plusieurs associations de défense des droits de l'homme. Le commissaire européen aux affaires intérieures doit se rendre lundi et mardi prochain dans les deux enclaves de Ceuta et Melilla afin de faire le point sur la situation sur place. Selon Bruxelles, l'installation récente du côté marocain de la frontière de bureaux pour des demandes d'asile à Ceuta et Melilla est un développement positif, mais la Commission européenne rappelle que toute mesure de surveillance des frontières doit être conforme au respect des droits fondamentaux et au principe de non-refoulement, affirmant qu'il est nécessaire de veiller à ce que le point de passage de la frontière soit accessible dans la pratique pour permettre aux demandeurs d'asile de présenter leurs demandes sans avoir à escalader les clôtures hautes de 3 à 6 mètres, des clôtures qui marquent la frontière.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire général de l'ONU a appelé à un cessez-le-feu immédiat au Yémen où une coalition de sunnites arabes menée par l'Arabie saoudite effectue des raids aériens contre les rebelles chiites houthis. Dans un discours hier à Washington, Ban Ki-moon a dit que le seul moyen de régler la crise, c'est l'arrêt des hostilités par toutes les parties en présence et la participation à des négociations.
Les négociateurs de l'Iran et des grandes puissances du P5+1 tiendront leur prochain round de pourparlers sur le nucléaire iranien les 22 et 23 avril à Vienne, a annoncé hier l'Union européenne. Il s'agira pour les deux parties de transformer en accord définitif leur récent accord cadre d'ici à la date butoir du 30 juin.
Un jeune Américain, frère d'un membre d'Al-Nusra tué au combat, a été inculpé hier ici aux États-Unis pour soutien matériel au terrorisme après s'être rendu en Syrie pour s'entraîner au djihadisme, a annoncé la justice américaine. Félix Yepassi-Zembro.
Abdirahman Sheikh Mohamoud, âgé de 23 ans, avait été arrêté en février à son domicile de l'Ohio, où il était rentré d'un voyage en Syrie en juin 2014 avec l'instruction de commettre un acte terroriste aux États-Unis. Il a été inculpé hier par un grand jury fédéral de tentative et de soutien matériel à une organisation terroriste et à ses membres, ainsi que fausse déclaration au FBI. Il encourt jusqu'à 38 ans de prison pour tous les chefs d'accusation cumulés. Son frère Abdi Fattah Aden, qui réside également à Columbus, dans l'Ohio, a été tué le 3 juin 2014 en Syrie. Il avait quitté les États-Unis en mai 2013 pour rejoindre l'organisation djihadiste selon ce même document. Après son voyage et la mort de son frère, il était rentré aux États-Unis avec la volonté de tuer des Américains et de cibler particulièrement les forces armées, policiers et hommes en uniforme. Il avait prévu d'attaquer une installation militaire ou une prison, selon le témoignage d'un agent du FBI intervenu sous couverture. Il s'était dit heureux de la mort de son frère et avait annoncé qu'il le rejoindrait bientôt.
Vladimir Poutine a accusé les États-Unis de tenter de dominer les relations internationales et il a souligné que Moscou est toujours prêt et toujours ouvert à la coopération. Le président de la Russie était en direct hier à la télévision avec les citoyens russes, à l'occasion de la session annuelle des questions-réponses.
Faisant allusion aux États-Unis, M. Poutine a dit que les superpuissances qui se disent uniques et se considèrent comme le seul centre du pouvoir dans le monde ont besoin de vassaux et non pas d'alliés. Selon lui, Moscou a essayé, après la Deuxième Guerre mondiale, d'imposer par la force son modèle de développement à beaucoup de pays est-européens et qu'il n'y avait rien de bon à cela. Les Américains, a-t-il poursuivi, maintenant agissent d'une manière similaire en essayant d'imposer leur modèle à travers le monde, mais ils échoueront eux aussi, a prédit Vladimir Poutine.
Et maintenant, la Minute Écho avec Camille Grosdidier.
En visite à Washington, le président guinéen Alpha Condé a évoqué les pressions économiques provoquées par l'épidémie de virus à Ebola sur son pays. Mais il a également défendu les progrès réalisés par son administration au plan économique.
Quand j'ai pris la Guinée, l'inflation était à 23%. On n'avait aucun rapport avec les communautés financières internationales. On n'a jamais eu de PPTE depuis très longtemps. La Banque centrale n'avait même pas une semaine de devises pour l'importation. Nous avons réussi à ramener l'inflation à 9%. Nous avons établi tous les équilibres macroéconomiques. Nous avons obtenu le PPTE et surtout, nous avons réussi la réforme de l'armée.
Le président Alpha Condé au micro de Nicolas Pineau. Réunion de printemps, Banque mondiale, Fonds monétaire international. La Grèce est à nouveau invitée à ces débats, Athènes étant confrontée à des partenaires plus tendus que jamais, alors que les médias évoquent à nouveau la menace d'un défaut de paiement. Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, a déclaré à la presse qu'il n'y aura pas de traitement de faveur pour la Grèce, endettée auprès du fonds et confrontée à des échéances de remboursement régulières.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
Football, le président de la CONCACAF réélu.
Oui, Jeffrey Webb a été réélu ce jeudi pour un second mandat à la tête de l'organisme régissant le football en Amérique du Nord et centrale ainsi que les Caraïbes. Je vous remercie pour votre confiance. Je suis reconnaissant d'avoir la responsabilité de diriger cette organisation, a déclaré Webb, qui n'avait aucun opposant selon le site du journal L'Équipe.
Le nageur Michael Phelps signe son retour de la plus belle manière.
Oui, pour sa première course après 6 mois de suspension, Michael Phelps, sportif le plus titré de l'histoire olympique, a signé ce jeudi le meilleur temps des séries du 100 mètres papillon du Grand Prix de Mesa en Arizona. Phelps, détenteur du record du monde de la distance 49,82, s'est imposé dans sa série avec un chrono de 52 secondes 92 centièmes. C'était bizarre de renouer avec la compétition car l'attente a été longue, a déclaré le nageur aux 18 titres olympiques.
L'athlétisme, c'est Eugène, ou Eugene, comme ils disent ici, qui va accueillir les championnats du monde de 2021.
La ville américaine de Eugene, dans l'Oregon, accueillera les championnats du monde d'athlétisme en 2021. C'est ce qu'a annoncé à Pékin la Fédération internationale d'athlétisme. Cette décision est motivée par l'opportunité stratégique unique d'organiser cette compétition biennale pour la première fois aux États-Unis, a expliqué l'IAAF dans un communiqué.
Pour rester aux États-Unis, c'est samedi que commencent les playoffs de la NBA ou éliminatoires pour le championnat de la Ligue de basketball. Ça promet puisque concernant la saison régulière qui vient de se terminer, on parle de record de spectateurs.
Oui, jamais autant de spectateurs n'ont suivi une saison régulière de Ligue nationale de basketball qu'en 2014-2015. Selon la NBA, la fréquentation s'est rétablie à 21,9 millions de spectateurs entre octobre 2014 et avril 2015, soit une progression de 2,4% par rapport à la saison 2013-2014. Le précédent record, 21,8 millions de spectateurs, avait été établi lors de la saison 2006-2007.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seroukia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Suite de la visite d'Alpha Condé aux États-Unis, après sa rencontre mercredi avec Barack Obama, le président guinéen s'est entretenu avec des sénateurs américains. Le professeur Condé a accordé une interview à VOA Afrique, interview dans laquelle il dément tout tir à balles réelles de la part des forces de l'ordre lors des récentes manifestations à Conakry. Nicolas Pineau s'est entretenu avec le président Alpha Condé.
Bon, vous savez, l'Ebola est un problème national. Nous avons lancé un appel à tout le monde, les sociétés civiles, les partis politiques, pour qu'on fasse l'union sacrée, parce que l'Ebola, c'est une guerre, pour qu'on mène la guerre contre l'Ebola, afin de mettre fin à l'Ebola. Bon, évidemment, il est souhaitable que tout le monde se mobilise d'abord pour mettre fin à l'Ebola, ce qui n'explique pas, parce qu'au moment où on fait l'urgence sanitaire renforcée, normalement, il ne devait pas avoir de manifestations ni de mouvements de foule.
Mais les forces de l'ordre ont-elles tiré à balles réelles sur les manifestations?
Ce n'est pas vrai. Vous regardez les forces de l'ordre, vous pouvez prendre des films, vous avez des collaborateurs là-bas. L'armée est casernée et la gendarmerie et la police n'ont pas d'armes. Ils ont des armes non létales, c'est-à-dire des grenades lacrymogènes. Par contre, vous avez des civils qui tirent sur les gendarmes avec des fusils de chasse. Si vous allez, beaucoup de diplomates peuvent vous confirmer qu'ils ont été voir les gendarmes à l'hôpital. Maintenant, je ne sais pas d'où viennent ces informations de dire qu'on a tiré. Dans aucun des hôpitaux, il n'y a eu aucun seul mort. Et les gendarmes ne tirent pas à balles réelles. Nous avons donné des véhicules blindés aux gendarmes, ils sont protégés. Par contre, c'est eux qui reçoivent des pierres. Nous faisons ce qu'on appelle le maintien d'ordre civilisé, c'est-à-dire les grenades lacrymogènes, les bâtons. Mais les gendarmes n'ont pas tiré. Depuis que moi je suis venu, je ne permets pas que les gendarmes soient armés.
Alors l'opposition a suspendu ces manifestations, elles reprendront lundi. Quels sont vos rapports avec l'opposition? Est-ce vraiment ce degré de tension avec les leaders de l'opposition, notamment les trois anciens premiers ministres?
Bon, vous savez, on a mis en place une commission. On s'était mis d'accord sur le choix de l'opérateur économique, opérationnel appel de ce qui a été fait. On s'est mis d'accord sur la lutte contre l'impunité. On s'est mis d'accord sur un comité de veille qui va suivre la CENI. Donc, les élections en Guinée, ça dépend de la CENI. Le gouvernement n'a rien à voir dedans. La CENI propose des dates à tous les partis. Et si je pense qu'ils peuvent le faire, je prends le décret. Donc, le ministre de la Justice est chargé d'animer le dialogue. Le premier ministre a fait encore appel hier au dialogue. Donc, moi, je laisse les gens qui sont chargés du dialogue continuer le dialogue. Vous savez, l'élection présidentielle, c'est constitutionnel. C'est une date impérative. Si on n'organise pas l'élection à cette date, il n'y a plus de légitimité.
Alpha Condé sur VOA Afrique, une interview en vidéo à retrouver sur notre site web voafrique.com.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Au Togo, la conférence épiscopale a décidé de ne pas envoyer d'observateurs à la présidentielle du 25 avril prochain, pour, entre autres raisons, les réformes non faites. Pendant ce temps, la campagne électorale se poursuit, ainsi que les consignes de vote, nous dit de Lomé, Kay Lawson.
Les premiers observateurs internationaux pour le scrutin du 25 avril prochain commencent à arriver au Togo. Aux côtés de ces internationaux, les organisations de la société civile togolaise vont aussi observer cette présidentielle. Un absent de taille parmi les observateurs nationaux est l'Église catholique du Togo. La commission épiscopale justice et paix veut s'abstenir de toute mission d'observation. Professeur Magloire Kouakoubi, président diocésain Lomé de cette commission.
Le pouvoir togolais a utilisé l'Église pour la CVJR. Et depuis avril 2012, les recommandations sont restées dans le tiroir. Dans ces recommandations, il fallait les réformes constitutionnelles et institutionnelles pour apaiser le pays. Donc, nous nous sommes dit que, comme on n'a pas fait les réformes constitutionnelles et institutionnelles, nous n'allons pas observer parce que c'est comme si on se servait de l'Église pour avaliser des forfaitures juridiques dans un pays qui aspire à être un état de droit, mais qui, en fait, n'a pas cure des droits de l'homme.
Au Au-delà de ces raisons, la Commission épiscopale du Togo estime avoir tiré les leçons de l'observation de l'élection présidentielle de 2010, précise le professeur Magloire Kouakouvi.
Nous avons eu beaucoup de problèmes en 2010. Une fois que nous avons observé, de mauvaises langues ont fait courir le bruit que l'Église connaissait les résultats et les gardait par-devers soi, ce qui n'est pas vrai du tout. Aucun groupe d'observation ne donne les résultats d'une élection. Nous sommes des commissions justice et paix, nous ne sommes pas des commissions justice et guerre.
Sur le terrain, les candidats à cette élection présidentielle de 2015 continuent à battre campagne. Dans le pays, les consignes de vote vont bon train. Si les uns accordent leur soutien à tel ou tel candidat, certains partis politiques et autres associations appellent au boycott du scrutin. Le grand enjeu de cette présidentielle sera donc le taux de participation. Kay Lawson, Lomé, pour La Voix de l'Amérique.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo se dit prêt à exhumer les 421 corps enterrés le 19 mars dernier dans une tombe commune à Maluku, commune urbano-rurale située à 100 km de Kinshasa. Je vous propose un extrait de la déclaration faite à ce sujet hier par le ministre de la Justice et des Droits Humains, Alexis Tambwe Mwamba.
J'ai signalé dès le départ qu'il n'y avait pas de tabou, on n'a rien à cacher. J'ai signalé dès le départ que si le magistrat instructeur estime qu'il faut exhumer, on va exhumer. En plein jour, en présence de tous les diplomates du monde, en présence de tous ceux qui veulent assister. Donc c'est au magistrat instructeur, en fait, disons, à décider. Il est dit dans le communiqué, le procureur général de la République, M. Flory Kabangé-Numbi, invite toute personne qui détiendrait une information susceptible de l'aider à accélérer les investigations qu'il mène sur les rumeurs autour de la fosse commune de Maluku à venir la lui communiquer, soit directement à son office, soit en contactant le chef du parquet secondaire de Kinkolé, les officiers de police judiciaire de la police nationale congolaise, les inspecteurs de police judiciaire de l'auditorat général ou tout autre officier du ministère public ou de police judiciaire de son choix. Le procureur général de la République a également envoyé un courrier dont il m'a réservé copie à la date d'hier au représentant du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour lui dire, écoutez, les allégations qui sont dans votre rapport, savoir notamment que vous avez été informé par des gens qui avaient des odeurs pestilentielles. On ne les a pas constatées et nous lui demandons de pouvoir amener, en fait, disons, ces personnes pour qu'elles soient entendues par le magistrat instructeur. À la date d'aujourd'hui, le dernier rapport que je viens de recevoir ce matin, c'est que de nouveau, il y a eu une rumeur selon laquelle, à la suite des dernières pluies, la tombe s'est effondrée et qu'on voit les cadavres. Une équipe d'enquêteurs a été dépêchée sur les lieux, les enquêteurs de la police scientifique. Elle est descendue hier sur le site de cimetière et elle a constaté, en fait, disons, qu'il n'en était rien. La tombe était intacte malgré les fortes pluies. Et il y a deux jours, le gouvernement provincial de Kinshasa a de nouveau demandé au procureur de Kinkolé de pouvoir désigner un site pour l'enterrement qui aura lieu ce week-end et où il y aura probablement plus de 200 personnes. Mais à la journée d'hier, il y avait 197 corps à la morgue de Kinshasa.
C'était un extrait de la déclaration hier du ministre congolais de la Justice et des Droits Humains, Alexis Tambwe Mwamba. Merci à nos confrères de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Toujours en RDC, le lancement hier des opérations d'enregistrement des candidatures pour les élections régionales suscite déjà des réactions. Comme nous le disions hier, l'ex-mouvement rebelle M23 menace de ne pas reconnaître les nouvelles autorités qui seront issues des élections si au préalable les réfugiés congolais ne sont pas rapatriés. Eddie Sango a joint le président du M23, Bertrand Bissimwa.
Tout devrait être fait par le gouvernement congolais pour que ces Congolais aient la chance d'être élus ou d'élire également les représentants du peuple. Et si cela n'est pas respecté pour cette mandature, nous pensons que ces Congolais-là n'ont pas l'obligation de reconnaître les autorités qui seront élues.
La dernière modification de la loi électorale devrait permettre aux Congolais qui sont à l'étranger, y compris les réfugiés, de voter. vous ne pensez pas que ce sera le cas?
En ce qui concerne les Congolais qui sont des réfugiés dans les pays comme l'Ouganda, le Rwanda et puis le Burundi, il est un fait qui est aussi important. C'est que le droit d'élire, mais aussi de se faire élire, ne leur est pas possible pour le moment. Parce que c'est des personnes qui ne peuvent pas fouler le territoire congolais pour des raisons sécuritaires. Donc, ce n'est pas qu'ils réclament le droit d'aller se représenter, enfin, d'aller se présenter dans une ambassade pour élire. Ce n'est pas cela. C'est le droit aussi de se faire élire. C'est le droit aussi de participer à la campagne électorale, de pouvoir faire face à leurs candidats, discuter avec eux. Cela fait la différence avec les autres Congolais qui ont choisi pratiquement de vivre à l'étranger. Mais nous autres, nous n'avons pas choisi de vivre à l'étranger. Nous avons été contraints à vivre à l'étranger. Et par rapport aussi à la possibilité qu'il leur est offert d'élire ou de se faire élire.
Est-ce que vous pensez que les conditions sécuritaires soient réunies pour organiser les élections?
Les autorités congolaises, justement, se cachent derrière ce prétexte pour ne pas tenir les élections. C'est pourquoi nous avons dit qu'il est important que les opérations de sécurisation de l'est du pays, malheureusement, on a l'impression que le pouvoir en place travaille aussi à contre-courant pour que la sécurité ne revienne pas sur toute l'étendue du pays, pour qu'il se fasse un prétexte pour ne pas tenir les élections.
Bertrand Bissimoua, il répondait aux questions d'Idi Isango. Suite à la sanglante attaque des militants d'Al-Shabaab contre l'université de Garissa au Kenya, la question de la présence des troupes kenyanes en Somalie divise la classe politique kenyane. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Depuis l'arrivée au pouvoir du président Uhuru Kenyatta en avril 2013, plus de 400 personnes ont péri dans des attaques terroristes dans son pays. La plus meurtrière étant celle de Garissa, qui avait fait 148 morts. Pour le sénateur Bulo Kero du comté de Mandera, une des zones kenyanes les plus touchées par les attaques de ces derniers mois, les troupes kenyanes doivent se replier aux frontières. Je pense que les forces de défense du Kenya doivent se redéployer pour créer une zone tampon d'environ 50 km ou plus à la frontière, mais pas à Kismayo ou dans les autres villes. Le sénateur Kero a fait remarquer que dans le comté de Mandera, qui partage 270 km de frontière avec la Somalie, on compte moins de 200 soldats et une ou deux casernes, alors que selon lui, il faut des soldats kenyans tous les 20 ou 30 km le long de la frontière. Par contre, Ali Roba, gouverneur du comté de Mandera, que citent les médias kenyans, veut que les soldats kenyans restent en Somalie. Monsieur Roba, qui a survécu à plus de deux attaques, pense que les troupes kenyanes y font un bon travail. L'opposition kenyane estime que l'implication du Kenya en Somalie n'est pas étrangère à la récente vague d'attaques terroristes à travers leur pays. Pour le sénateur James Orengo, membre de l'opposition, une insurrection est en préparation au Kenya et les troupes nationales doivent rentrer pour combattre les réseaux terroristes locaux. La menace d'Al-Shabaab se manifeste d'une manière différente. Cette insurrection externe est en train de devenir une menace vraiment interne. Nous apprenons qu'ils essaient de recruter des Kenyans pour rejoindre Al-Shabaab en Somalie et ils engagent des Kenyans plutôt que des Somaliens pour leurs activités illégales au Kenya. L'un des quatre assaillants impliqués dans le massacre de l'université de Garissa était le fils d'un responsable administratif de Mandera. Deux autres étaient originaires de l'ouest du Kenya et les autorités pensent que le quatrième venait de la ville côtière de Mombasa. De l'avis du vice-président kenyan William Ruto, ceux qui exigent le retrait des troupes kenyanes répondent en fait à l'appel d'Al-Shabaab. Le débat exigeant que nos forces reviennent au Kenya est inutile. Les Shabaab sont ceux qui disent que nous devrions retirer nos forces de la Somalie. Alors comment vous, dirigeants kenyans, pouvez-vous vous joindre à Al-Shabaab pour demander de retirer nos forces? Seriez-vous Al-Shabaab? Le groupe de suivi des Nations Unies pour la Somalie et l'Érythrée chiffre à 500 le nombre de jeunes ayant rejoint Al-Shabaab en Somalie. Les autorités kenyanes ont accordé une amnistie de 10 jours aux jeunes kenyans se trouvant dans cette situation, leur enjoignant de signaler les insurgés à la police et de dénoncer la violence. Bien accueillis par les leaders musulmans, la mesure est rejetée par leurs homologues chrétiens qui estiment qu'une telle amnistie revient à céder au terrorisme.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique sur la Voix de l'Amérique en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique sur la Voix de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info.